Il possède une magique potion qui leur donne une surhumaine force.
La chatte qui l'a, la chatte!
Froggies, le podcast en français des fans de la Fantasy Premier League.
Bienvenue dans le nouvel épisode de FPL Froggies, un épisode spécial avec, avec un invité de marque, mais qui est déjà venu dans le podcast, c'est Seb. Seb, comment ça va ?
Salut, ouais, ça va, merci de l'invitation, ravi d'être avec vous.
Et Benjamin, bien sûr, comme toutes les semaines.
Ouais, toujours présent, flèche verte, en forme. Et puis là, ce soir, il y a du niveau, quoi. Avec Sébastien, on a un peu tous la pression. Enfin, nous, on a la pression. Je discutais un peu avec lui hors ligne. Lui, pas du tout. Il dort bien. Il vit bien la situation. Pas de pression. Mais enfin, quand même, 47e mondial, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. Aujourd'hui, 47e,
ouais. Ouais, bah, il va falloir que tu nous parles de cette superbe début de saison. 47e, mais surtout ça fait vraiment maintenant une bonne dizaine de journées où t'es vraiment vraiment bien placé. Là, c'est pas un rush des dernières semaines, c'est plutôt assez constant. Bon, là, avec un gros coup de boost sur la 26, tu vas nous raconter, mais globalement t'as un jeu solide depuis quasi le début de l'année. Donc bah, tu vas nous faire un petit récap de ta saison. On va débriefer nos 26. La 26, là, pour le coup, vu le jeu des chips dans le field, il y a pas mal de gens qui avaient pris la wildcard. Nous, on est trois non-wildcarders, je crois, ce soir.
Seb l'a fait.
T'étais en wildcard, Seb ?
Non.
Ah non, oui, pardon.
Ah non, bah non, c'est pour ça qu'il a du Liverpool, notamment.
Ouais, voilà, ouais.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc là, on va débriefer nos 26, qui était vraiment une semaine intéressante. Après, bah, je vous propose de parler vraiment du blog 27-28, parce que je pense qu'il faut vraiment l'appréhender comme un bloc, hein, avec des décisions à prendre sur deux game week. Donc on va en parler. On va redire un mot sur la chip stratégie, justement, comme on est trois à ne pas avoir utilisé notre wildcard. On va parler un peu de ce qu'on envisage pour la chip stratégie, un peu comme toutes les semaines, mais là ça s'affine avec les nouvelles de calendrier, et puis on finira sur les captains de la 27. Donc Seb, alors 47e mondial, tu peux nous parler un peu de ta saison. Donc rappelle-nous, donc c'était venu deux fois l'année dernière. J'invite ceux qui veulent un peu savoir comment tu as découvert le jeu, etc., à réécouter le podcast de l'année dernière. T'étais peut-être mis en FPL Jürgen quand t'étais venu. Je crois qu'on avait mis ça dans le titre. Et puis là maintenant, on t'appelle Seb, mais les gens pourront retrouver. Mais donc, bah, dis-nous comment t'avais fini. Redis-nous un peu ton historique de classement sur tes premières saisons. Et puis parle-nous de cette super saison 2022-2023.
Ouais, bah, ça fait 10 ans, je crois, une dizaine d'années que je joue à ce jeu. J'ai eu des résultats un peu en dents de scie. J'ai eu quelques résultats dans le top 50. Je crois que j'ai fait une fois 20 000, une fois 30 000, quelques top 100 000. Et l'année dernière, j'ai fait 90 000. Donc mon meilleur classement, c'est 20 000. Et après, j'ai eu quelques autres résultats un peu moins bons. Et ouais, en fait, cette année, bah, c'est un peu n'importe quoi, pour être tout à fait honnête. En fait, je m'étais fixé comme objectif au début de l'année de faire un top 10 000, parce que je ne l'avais jamais fait. Et c'est assez marrant, mais je ne dis pas que c'est pour ça, mais la dernière fois que j'écoutais un de vos podcasts, il y a toujours Benjamin qui dit « moi, je joue la gagne ». Et en fait, je me suis dit « ouais, en fait, c'est débile de jouer le top 10 000, qu'il faut jouer le jeu comme si tu voulais le gagner ».
Chaque année, je dis ça. Hein? Chaque année je dis ça, mais moi je sais pas me lancer dans un truc sans me dire je joue la gagne. Et évidemment je joue la gagne, quoi.
Ouais, non, et c'est ça, en fait, c'est tout à fait ça. Donc cette année, en fait, déjà l'année dernière j'y avais pris beaucoup plus sérieusement que les années d'avant. J'avais un peu lâché en deuxième partie de saison, et là cette année j'ai continué un peu dans cette approche en faisant vraiment en ayant comme bible quoi, c'est le fichier Excel de Ben Krellin, où il a toutes les fixtures qui sont ordonnées par et classées par difficulté. Et ça te permet un peu de naviguer les différentes phases de la compétition. Et moi, je l'ai retouché un petit peu ce fichier en essayant d'ajuster les forces et les faiblesses offensives et défensives avec les XG en fait, des équipes à mi-chemin de chaque saison, de chaque demi-saison, quoi. Donc, je remets à jour un petit peu les valeurs des fixtures en fonction des formes des équipes. Mais en fait, c'est vraiment, je joue vraiment que les fixtures quand je me rends compte que la forme des joueurs, je la prends en compte, mais c'est vraiment dans le planning, c'est vraiment les fixtures que je cible. Et d'autres choses que j'ai essayé de mettre en place, que j'avais écouté en fait d'un gars qui est vraiment fort, qui a fini, je sais pas, c'est un des gars qui est au même niveau que Fabio Borgas, le gars qui est Hall of Fame numéro 1. Et lui disait qu'en fait, il essayait de pas gaspiller les transferts, quoi. Moi, j'essayais de faire ça cette saison et en fait, je me suis retrouvé à plein de fois avec deux free transferts parce que je voulais pas transférer juste pour faire un transfert. Les sideways moves, là, j'essaie de les éviter au plus possible et un peu de donner la confiance et de garder la confiance dans les joueurs que je prenais pendant 4 ou 5 game week. Donc,
Alors, j'ai
j'essaie un peu de garder ces principes-là. Ouais.
une question à te poser justement pour bien comprendre. En fait, ça me semble contradictoire. Si tu loues les fixtures, j'imaginais au premier abord que ça veut dire que dans ton équipe de 15 joueurs, tu avais un socle de joueurs que tu as sur long terme et je sais pas, il y a un tiers ou une moitié de joueurs que tu fais tourner en fonction de. Des fixtures, mais en fait non. Tu dis que c'est plutôt des blocs de 4-5 fixtures. Tu utilises ton fichier Excel quand tu fais un transfert en disant bah voilà je vise le moyen terme et là la moyenne des 4 prochaines fixtures elle est mieux pour le joueur A que pour le joueur B. C'est comme ça que tu raisonnes?
Ouais. En fait, c'est ça pour on va dire 80% de mon équipe, je la bouge très peu. Et après, il y a quelques joueurs un peu les tentatives un peu avec peu d'ownership, les Almiron, Gross, Rodrigo et compagnie, où là, j'ai tourné un peu plus fréquemment, je veux dire une moyenne peut-être de 3 game week max, peut-être 4 game week. Mais sinon, ouais, en fait, je regarde beaucoup, beaucoup les zones vertes en fait dans le fixture rating pour targeter ces équipes-là. Et j'essaie de m'y tenir le plus possible. Bon, là, c'est un petit peu moins facile avec les double game week. Et je regardais un petit peu l'historique de cette saison, en fait, et si je la résume. Un peu en 3 ou 4 phases. Il y a la première phase en fait de la game week 1 à la game week 8 où je fais la wild card, où je fais un bon début. En fait, je suis vraiment dans l'équipe template avec Haaland, Salah, les quatre gros défenseurs derrière, Trent, Cancelo, James et compagnie. J'avais Rodrigo qui était un peu le fun punt du début de la compète. Et j'étais 31 millième à la Game Week 8 avant que je fasse la wild card. Et en fait, après, ça a accéléré à partir de là parce que Game Week 9, en fait, sur la wild card, j'avais Foden et Bowen. Et c'est le run où Man City il gagne contre Man United 6-3, que Foden il met 2 buts, une passe D. Enfin. Et après, j'ai enchaîné en fait ces joueurs-là avec Almiron, Rashford quand il était. Quand il commençait à monter en puissance. Et à partir de la Game Week 12, en fait, je suis rentré dans le top 1000. Et depuis, je suis sorti du top 1000 qu'une seule fois en 19. Donc depuis la Game Week 12, en fait, je suis dans le top 1000. Et bon, il y a quand même pas mal de facteurs qui font que ça s'est bien passé. Déjà, bah, énormément de réussite, quoi. Je pense qu'il faut être un peu humble avec ce jeu. Quand je vois la variance qu'il y a, en fait, pour moi, là, clairement, cette année, toutes les planètes se sont alignées, quoi. À chaque fois que je prends un joueur, j'ai l'impression qu'il commence un run de forme incroyable. Enfin, Foden, il avait rien fait. Je l'ai pris. Il envoyait des 15 points toutes les semaines. Almiron, il venait, c'était pareil. Rashford, pareil. Ça tourne vraiment parfaitement, quoi. Même là encore, il y a 2 semaines, je pense Sarabia, quoi. Sarabia de Wolverhampton, il fait
Ouais, c'était
un
beau
but, il
ça.
prend trois bonus.
Estupinan, c'était bien
Et.
joué, parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que la chatte non plus, il y a aussi le essayer de voir un peu avant tout le monde ce qui a le potentiel de rapporter. Et je trouve que Estupinan, c'est l'exemple parfait, le mec monte en puissance, un peu, enfin tu vois, tout le monde l'oublie parce que ce spot-là à Brighton qui est pas non plus rock solide derrière en début de saison. Tu vois, genre, on est plus focalisé sur les premiums ou alors de la value ailleurs. Et au final, c'est.
Ouais.
Romain
Et en
dirait,
fait, il avait
c'est
une
un
raison.
poste sur lequel tu peux pas vraiment te tromper. Mais. Bah, la raison, il y a. C'est
Il y avait une
pas.
raison derrière, en fait, c'est que en suivant quand même pas mal Ben Crélin, qui est un peu le gourou des double game week et des blank game week, il avait annoncé en fait en 16 que Brighton avait beaucoup de matchs à rattraper, qu'il y avait des grandes chances qu'en fait en game week même 19 et 20, ils aient 2 doubles. Et en fait, dans ma wildcard, donc la Unlimited Transfer de post-Coupe du Monde, j'avais un spot à 4,5 et je me suis dit, bon, bah, Estupinian, je le voyais qui montait pas mal sur le côté gauche. Là, je me suis dit, bon, bah, ça ne me prend pas grand-chose, quoi. Je pourrais toujours le bencher si ça ne marche pas. Et en fait, je tablais les double game week. Et en fait, c'est un peu bizarre et un peu marrant parce que à partir de la game week 16, j'ai vraiment. Jouer le long terme, genre 6-7 game week pour vraiment targeter les doubles. C'est pour ça que j'ai pris De Bruyne et pas Salah, parce que De Bruyne avait une double en 19, je crois, ou 18, je sais plus. Au final, c'était un flop complet, De Bruyne. Et c'est ce qui m'a fait un peu stagner après la World Cup, en fait. C'est que j'ai joué trop le long terme et j'ai pas pu prendre les mecs comme Shaw à United qui envoyait des 9 points tous les matchs, ou même Fernandes qui montait bien, ou Mahrez. Je suis resté sur De Bruyne, sur des mecs comme ça. Donc j'ai un peu stagné.
Ouais, mais est-ce que c'est pas le prix à payer de stagner parce que tu te retrouves après à 7 ou 8 games derrière à 47e mondial avec des mecs qui ont explosé en vol comme Mahrez, enfin, tu vois. Finalement, comme on a que un transfert par semaine, est-ce que ça vaut pas le coup de regarder loin et puis de laisser passer l'orage sur des mecs comme Shaw, Mahrez, où c'était, enfin c'est pas le cas de Shaw, mais Mahrez s'était écrit qu'il y aurait un purple patch comme ils disent pendant 7-8 matchs et après derrière, boum, Mahrez en fait il devient Foden, je sais pas trop pourquoi, et au final c'est celui qui a vu sur 10 matchs qui s'en sort le mieux quoi.
Ouais, si, si, bah en fait, je pense vraiment, moi, la leçon de cette année, je sais pas si ça marchera de la même façon l'année prochaine, mais la leçon, c'est que la patience, elle est clé, quoi. Le plus d'informations tu as, j'ai pas fait un transfert, je pense, avant le jeudi ou le vendredi ou le samedi matin de la Game Week, quoi. Bon, il y a un contexte qui fait que c'est faisable cette année parce qu'il n'y a pas trop de limitations de prix. Et aussi le fait que Haaland a été permacap pendant très longtemps, ce qui m'a permis en fait de, même si j'avais des semaines pas terribles, de rester là où j'étais parce qu'il n'y avait pas trop de swing sur les capitaines, quoi. S'il y a deux capitaines forts et que tu as des swings à 20-30 points, tu peux plus monter et descendre. Donc je pense que j'ai été aidé un petit peu par ça. Là, ça va changer parce qu'il y a des doubles et Haaland il y a plus d'alternatives à Haaland, je pense. Et ouais, en fait, la dernière partie de cette saison, là, c'est entre la Game Week 25 et la Game Week 26. Donc, Game Week 26, où du coup, c'est un peu bizarre parce que ça part d'une énorme frustration, en fait. Les résultats de la FA Cup, pour moi, c'est un scandale. Enfin, pour ma stratégie, j'étais dégoûté parce que ça faisait 3 ou 4 semaines que je planifiais pour pouvoir avoir le max de Brighton et Brentford et de ne pas utiliser ma frite en 28. Pour pouvoir voilà, avoir l'avantage des doubles et pas perdre de chip en 28. Et en fait, j'étais vraiment chargé sur ces jours-là depuis longtemps. Et là arrive la FA Cup et tout le monde se met en wildcard pour avoir triple up Brighton et Brentford, quoi. Et en fait, j'étais dégoûté parce que ma stratégie que je pensais être un petit peu niche par rapport à ce que je voyais sur Twitter et ce que je voyais des autres managers autour de moi, bah, elle a volé en éclats. donc je me suis dit, bon, bah, tout le monde va avoir la même équipe, donc là, de faire des gains, de rentrer dans le top 100, par exemple, ça va être impossible. Et puis en fait, ce qui s'est passé, quoi. Moi, j'ai gardé
Au
mes
final, ça vient de
3 000 en plus,
Liverpool,
mais
ouais.
j'ai pas utilisé ma wildcard parce que j'étais déjà prêt, en fait, sur cette Game Week 27, je l'avais déjà prévu depuis longtemps. Donc, Game Week 26, bah, moi, j'ai gardé mon free transfert. J'étais pas non plus trop stressé d'avoir les 3 de Liverpool, même si je me disais pas que ça allait être aussi monstrueux, quoi. Mais j'aurais vu un but de Salah et un but de Darwin, par exemple. Ça m'aurait pas choqué, quoi.
Avant qu'on aille peut-être sur la 26, j'ai d'autres questions à te poser sur ton début de saison. Ça m'intéresse toujours de savoir en fait le tout début. Est-ce que cet été tu avais coupé complètement avec FPL? Tu t'y es remis 2-3 jours avant ou t'avais vraiment préparé ta première équipe en amont?
Alors j'ai coupé à la fin de la saison l'année dernière, j'ai bien coupé, j'ai rien touché pendant un bon moment. Par contre, je l'ai préparé quand même 3 semaines avant, quoi, je pense, facilement.
Ok.
Donc,
Et la
ouais.
première wildcard, donc tu nous as dit en 8, t'as dit, je crois.
Ouais.
Quel était le. C'était planifié par rapport à des changements de fixture et par rapport au fichier de Krillin, ou c'était parce que tu sentais que ton équipe tirait à la langue et il fallait faire quelque chose?
Non, c'était prévu. Enfin, c'était dans cette zone-là, quoi. Il y avait, entre la Game Week, je crois, 7 et 9, il y avait quand même un gros changement de fixture
Ouais, puis je crois qu'il y avait un break international aussi.
Ouais. Et en fait, j'étais pas trop clair sur la date exacte, sur la Game Week exacte, mais c'était dans cette période-là, c'était sûr et certain. Et en fait, donc, il y a eu le décès de la reine, il y a eu Blanc en 7, je crois. Et en 8, du coup, bah, c'était 8 ou 9. En fait, les options. Et ben, 8, ça m'arrangeait parce que j'avais pas une équipe terrible. Donc, je l'ai fait en 8. Et c'est là que j'ai récupéré les Foden. J'ai récupéré Foden, Kane, Bowen. En fait, en regardant, je me dis que c'est dingue maintenant, mais j'avais Bowen qui a bien, bien marché. Et ensuite, en fait, j'ai pu sauter sur Almiron et Saka. Qui ont bien fonctionné aussi.
Ok. De ce que je repose une question après, je te laisse Benjamin poser Étienne. De ce que je comprends, t'es pas du tu te fiches du price en fait des joueurs. T'es pas du tout dans la team value. Hein.
Ah ouais, non, bah en fait, ouais, pas du tout en fait. Je me suis encore moins cette année parce que c'était pas nécessaire. Et là, je vois beaucoup de débats sur Twitter où ils disent ah, je veux pas vendre Rashford, je veux pas vendre Trippier parce que j'ai trop de valeur attachée à ce joueur. Et c'est vrai qu'il y a un delta entre le prix où tu le vends et le prix où tu le rachètes qui fait parfois mal, quoi. Mais moi, là, j'ai vendu Trippier et Rashford et je vais sûrement les récupérer dans 2 ou 3 game week au prix fort, quoi, parce que je les ai vendus à 0,4 ou 0,3 de moins que leur prix actuel. Mais bon, c'est facilité par le contexte. Où il n'y a pas de trimum, où c'est assez facile à naviguer, il y a pas mal de joueurs peu chers.
Ouais, c'est aussi facilité par ton classement, hein, parce que ton classement est intimement lié à ta team value. Je pense que. Est-ce que tu sais combien t'as en team value là?
Je peux dire ça.
Parce que forcément, quand t'as des joueurs qui marchent, t'as ta team value qui augmente, donc tu peux plus te permettre derrière de faire des moves en perdant de la value, en vendant et en rachetant un joueur, ce qui n'est pas forcément le cas de mecs qui sont autour de la 500 000 mondiale. Qui eux regardent un peu plus le move parce que forcément ils ont sûrement acheté le joueur au prix fort et ils vont le revendre moins fort, donc ils peuvent moins se permettre d'un culbute quoi. C'est un peu la double peine du jeu quoi, au niveau classement quoi.
Ouais. Non, là, je suis à 104,1.
Ouais,
Donc,
donc c'est haut ouais.
c'est haut quand même.
Mmh,
Après,
ouais, légèrement. Ouais, c'est haut, c'est
donc
clair.
ouais, ça aussi, ça aide beaucoup, quoi. Ça aide.
Au niveau du. Non, moi j'avais une question par rapport au début de saison. Est-ce qu'avec 10 années, 11 années d'expérience maintenant, est-ce que tu penses, comme moi, que. Enfin, je suis en train de m'en convaincre, mais je suis pas non plus persuadé du truc. Est-ce que tu penses que la Game Week 1 à 10 consiste à ne pas. pas être largué plutôt que d'être bien placé. J'ai l'impression que quand tu es derrière à la 10, c'est vraiment dur de revenir, quoi. Il faut prendre les bons wagons dès le départ et que la saison peut se perdre dans les 10 premiers matchs, dans les 10 premières journées, alors qu'elle peut pas vraiment se gagner là, quoi.
Ah ouais, moi je suis totalement de cet avis-là. Mais moi, si je dois résumer ma saison, hein, et là il y a eu 26 game week. Moi, elle se joue sur la première game week où je suis pendant assez longtemps à 50-50 Kane Haaland et je vais sur Haaland, pardon. Et en fait, si je fais pas ce choix-là, je suis dans une galère monstrueuse, quoi.
Et il y a
Parce
Rodrigo aussi qui
que.
fait du bien sur les. C'est.
Ouais. Alors ça, c'est les boosters, en fait.
Ouais,
C'est ce
c'est les
qui
boosters.
permet de.
Est-ce que justement, du coup, la stratégie du début de saison, une stratégie optimisée du début de saison, ne consiste pas finalement à, de manière un peu boring, faire du 80-90% de template et de se réserver un spot ou deux de booster. Et puis après, d'aviser. Enfin, si t'es template pendant 7 ou 8 game week, il peut pas t'arriver grand-chose de mauvais, quoi.
Ouais, c'est ça en fait. Et bah déjà, il y a deux choses sur ce que tu viens de dire. La première, c'est que bah tu te mets pas dans le rouge direct où il va falloir cravacher en prenant des hits pour récupérer des joueurs qui sont en forme. Tu restes un peu dans le peloton. Et par contre, tu as deux ou trois joueurs un peu fun en plus. Parce que franchement, c'est aussi le côté fun de FPL quand tu as des Rodrigo ou des Sarabia qui te mettent un but, c'est le petit kiff quoi. Tu vois, Haaland qui marque, bah, tout le monde s'en fout maintenant, tout le monde l'a, mais Sarabia, c'est le petit truc qui te met le smile. Et ça te permet quand même de rester collé au peloton de tête. Et quand je compare aux joueurs, aux gros joueurs là, qui sont sur Twitter, qui ont les late risers, les mecs comme ça, qui ont vraiment des grosses, grosses saisons, là, ils galèrent. Et en fait, ils ont fait un mauvais début. Et ça les force à faire des coups, en fait. Ça les force à prendre des risques plus tard. Et je pense que du coup, bah, ces risques, ils sont plus en court terme sur 2-3 game week. Et donc la variance, automatiquement, elle augmente, quoi. Au
Ouais,
final, les stats, elles.
c'est un peu le cas de Marc Cerns cette année qui est souvent parti dans les stratégies différentielles pour combler le retard en captain. Par exemple, il mettait captain KDB en ayant Haaland aussi, puis il se faisait ouvrir 4 game week sur 5, tu vois. Parce qu'en fait,
Ouais.
quand tu regardes le match, quand tu regardes les stats, t'as quand même une énorme probabilité pour que Haaland outscore KDB. Et le jour où KDB outscore Haaland, ça va jamais couvrir le différentiel, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un peu l'erreur après derrière de courir derrière le truc. Il vaut mieux peut-être assurer le début de saison. Ouais.
Ouais, et puis après, bon, pour en revenir sur la saison, en fait, l'année dernière, on avait déjà parlé un petit peu dans les podcasts de l'influence de Twitter, de Reddit et de YouTube, en fait, sur nos décisions. Et là, c'est encore un gros sujet cette semaine parce qu'il y a eu cet énorme swing. En fait, moi, j'écoute quand même pas mal de contenu, un peu en temps caché dans la journée, je sais pas, quand je vais au boulot, quand je fais du sport, des trucs comme ça. Donc je l'écoute un peu d'une oreille que je suis pas non plus à 100% dessus et ça m'empêche pas de jouer mon jeu au contraire en fait vraiment j'ai pas du tout l'envie de copier ce que les gars disent par contre ça amène des réflexions quoi ça me fait réfléchir sur des options ça me fait argumenter un petit peu avec moi-même l'option A ou l'option B bah là on en parlera plus tard pour les chips. Et ça, je pense que ça a de la valeur, quoi. De suivre bêtement les joueurs, les
Ouais.
influenceurs et les content creators, je pense que ça n'a pas de sens et puis c'est pas très drôle, quoi. Mais d'utiliser ces plateformes et ces informations comme un garde-fou et comme un peu un argumentaire, ça, moi en tout cas, ça m'a beaucoup apporté cette année, quoi.
Je pense qu'il y a une erreur qu'on fait aussi, c'est que on passe peut-être trop de temps et on donne trop d'importance au content creator de FPL. Mais peut-être qu'on devrait plus se pencher sur tout simplement des insiders ou des gros connaisseurs de clubs qui, eux, vont souvent avoir la bonne analyse par rapport au club, la dynamique qu'il y a actuellement dedans, etc. Bon, là, on sait pour Brighton, il y a Az, il y a Joe. Mais souvent, moi, ben là, c'est le cas pour Brighton. Ces mecs-là, je les écoute pas forcément pour leur stratégie FPL. Par contre, j'ai tendance à tendre l'oreille quand ils vont dire ah ben ouais, Mitoma c'est intéressant, ouais, Stupinan c'est intéressant, oui, c'est sûr qu'il va être titulaire. Des mecs comme ça et des comptes comme ça, Je pense par exemple à des clubs comme Leicester, d'avoir 4 ou 5 mecs très connaisseurs de l'équipe et des dynamiques, ça, tu vois, ça, je pense que ça aiderait beaucoup plus. Par exemple, si on avait l'info que dans les 4-5 prochaines Game Week, on va avoir un Iheanacho et un Maddison en 10 derrière, voilà, ça a vachement plus d'impact que 3 mecs qui parlent de stratégie FPL avec des underlying statistiques sur 10 Game Week qui veulent pas dire grand-chose, quoi. Donc on fait peut-être cette
Après,
erreur-là.
pour reprendre l'exemple de notre podcast, enfin nous, j'imagine pas qu'il y a un... Il y en a peut-être un hein, qui il peut nous écrire sur Twitter s'il veut, mais je pense pas qu'on ait un auditeur qui écoute le podcast et qui va recopier qui va recopier nos équipes. Bon, déjà, on n'a pas non plus des classements. Bon, ça va, on se défend, mais on n'a pas des classements mirobolants non plus. Mais nous, notre ambition, c'est de faire, car on fait toujours un peu trop long, mais si dans l'idéal, ce serait faire 45-50 minutes où on parle et on espère que les gens y passent un bon moment en nous écoutant, comme tu as dit, Seb, d'une oreille un peu discrète, dans les transports ou en faisant le running, tranquille, qui passe un bon moment. Et effectivement, si ça peut forcer des réflexions et ce genre de choses, je pense que ça va très bien. Mais pour prendre notre exemple, on n'a pas plus d'ambition que ça, quoi.
Mais les ouais non mais c'est je pense que ça doit être ça en fait, ça va être un truc un peu léger qui amène à la discussion, mais les par contre les insiders et les gars, les fans de club là sur Planète, je crois que c'est Planète FPL, je crois, ils invitent souvent des joueurs qui sont vraiment fans de Southampton ou de Brighton, et ça par contre ces infos-là, je suis d'accord avec toi Benjamin, en fait je me rends compte que ça a beaucoup de valeur quoi. Je me suis rendu compte qu'en les écoutant dernièrement, tu apprenais beaucoup de choses, quoi. Southampton, par exemple, là, à la maison, défensivement, ils sont bien plus forts que depuis quelques semaines. Et en fait, bah, le gars, il expliquait, voilà, et le nouveau manager, il a fait ça, ça, ça. Et ça, je pense que ça a de la valeur.
Ouais, surtout sur des équipes que t'as pas forcément l'habitude de regarder à la télé, parce que c'est un peu indigeste. Mais ouais, je pense que d'avoir des infos de gars qui suivent vraiment les clubs et qui sont capables de mettre en place. Tu vois, par exemple Foden, là, rétrospectivement, qu'il soit mis sur le banc par Guardiola, etc. Bon, tout le monde s'interroge un peu parce qu'il a le feu, mais bon, on s'interroge pas plus que ça parce que c'est Guardiola. Ben, rétrospectivement, quand tu commences à lire les articles et les oreilles avisées disent, bah, en fait, Foden, il a un problème au pied, ça fait depuis le retour de la Coupe du Monde, quoi, tu vois, et ça n'a pas filtré. Si tu avais des mecs, des insiders, un peu qui disaient, bah, Foden, en ce moment, l'entraînement, il est complètement dedans, il traîne la patte, tu vois, ça évite de faire des erreurs, quoi.
Ouais.
Tu peux jump sur Mahrez, quoi.
À
Ouais,
ce
exactement.
propos, juste en aparté, on va dire, vous avez vu, Cancelo, il y a déjà des problèmes avec lui à Munich.
Ouais, il est pas content de son temps de jeu, j'ai vu. C'est génial.
Il tire la gueule déjà, il est en solo à l'entraînement, il tire la gueule.
Ok. Ah, donc en fait, c'est peut-être lui qui est difficile à gérer. Moi, je pensais que c'était Pep qui avait encore un peu pété un câble, mais
Non. Après, ouais, ce qu'il disait, j'ai lu un article là sur du en allemand, tiens, je me la pète un peu, sur Bild, où il disait qu'en fait, c'est le type de joueur qui sent en fait qu'il a passé son prime. Il a un peu, pourtant, il a que 28 ans, mais il sent qu'il est moins bon et qu'il baisse un peu et qu'il ne le supporte pas, quoi. A priori, c'était leur interprétation. Le gars, il est conscient qu'il commence un peu à baisser pour je sais pas quelle raison et il le vit très très mal, quoi. Mais ouais, a priori, c'était pas Pep pour le coup.
finalement, c'est avec Pep qu'il aura eu le plus gros temps de jeu, tu vas voir.
Ouais, c'est clair.
Bon, vas-y, ça.
Bon, on va glisser. Ouais, sur la 26, tu avais commencé à en parler, Seb. Tu disais, je crois que tu disais que c'était un game changer comme Game Week ou une Game Week décisive.
Ouais, bah ouais, en fait, je suis 640e avant cette Game Week et je monte à la 47e place, 47e place en un week-end. Donc, ouais, bah, je fais 92 points. Les seuls qui retournent pas, en fait, c'est Saka et Odegaard. Et donc, j'ai Captain Saka. Et c'est là, en fait, où ça devient un peu dingue, quoi. C'est que je suis un peu dégoûté d'avoir Captain Saka parce que j'avais l'idée de Captain Donnay, quoi. Alors que, en fait, je devrais juste être satisfait. Mais là, du coup, c'est un peu un engrenage qui se je suis à peu près dans l'engrenage de dire que je fais une saison incroyable, qui
Ouais,
du
mais je
coup
pense que
tous les
tu peux pas
détails comptent, quoi.
regretter. Tu peux pas regretter.
Ah non, c'était meilleur Captain
C'était
Saka, je
ouais,
pense.
c'était meilleur.
Ouais, non, sur les datas, c'était le meilleur choix, quoi. Et puis un autre, je fais 10 week-ends comme ça, je pense que Saka il marque plus de points que Tony 10
Ouais,
fois
c'est
sur
sûr.
10.
Oh,
Mais ouais.
le truc assez génial, c'est
Le but
effectivement
de White, quand même
le but
aussi.
de White qui rentre, qui n'était pas titulaire et tout, le truc improbable. Le but de Sarabia la semaine passée aussi, c'est t'as l'impression que tout ce que tu touches, ça devient de l'or, quoi. Cette saison, c'est assez fun, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça en fait. Ouais. Du coup, j'avais pas vu les résultats. J'ai regardé le Match of the Day le dimanche matin et je vois White sur le banc. Je dis, bon, ok, ça commence bien. Et je le vois rentrer là, qui met son plat du pied, la goal line technologie qui s'active, but. Et je dis, putain, c'est incroyable. Ça
Ouais, c'est clair.
me fait rire tout seul parce que.
Là, avec la pression du jeu et tout ça, t'arrives à ne pas suivre les résultats jusqu'au dimanche matin?
Ouais, enfin pas tout le temps, mais là j'étais en week-end et en fait bon les dernières semaines ça m'a quand même pris un peu de l'énergie et de l'influx, ça m'a un petit peu fatigué toute la semaine la préparation en fait des fois je m'éparpille un petit peu quoi, je regarde trop Twitter, je m'éparpille un peu et ça m'a pris un peu la tête. Du coup, le week-end, je me suis dit, bon, je vais pas regarder parce que je commence à regarder. Après, tu regardes FPL Live, ah ouais, t'as fait plus 100. Après, t'as une clean sheet qui saute, ah, t'as fait moins 100. Donc là, je regarde pas. Et j'ai regardé le dimanche matin avec Match of the Day, quoi. Et j'étais 340e le dimanche. Et donc après, Liverpool, donc j'ai regardé le match. Et là, ouais, non, là, c'était absolument incroyable, quoi. Inespéré. Le
Et par
week-end, en fait,
contre,
tout le monde a sorti les joueurs de Liverpool, c'est ça quoi qui fait que c'est incroyable.
ouais, ça c'était énorme. Moi aussi, je m'en tire bien avec Gakpo là.
Bon,
Mais
après, excuse-moi, Romain, je te coupe, mais
non, j'en prie.
après, on va en parler de Liverpool. Est-ce que c'est pas une anomalie ce 7-0? En fait, si tu veux, moi je suis en réflexion par rapport à Salah sur la stratégie. Il y a Salah qui fait un méga haul. Je sors du match, je me dis, bon, Salah, c'était pas l'élément prépondérant et numéro 1 de Liverpool sur ce match-là, quoi. Bon, certes, il a fait son match, etc., mais il était quand même encore très excentré. Darwin était toujours en centrale. Quand tu regardes derrière, Robertson est 1000 fois plus influent que Trent.
Non, c'était Gakpo en centrale, hein, dans le match.
Gakpo a bougé
Là,
pas mal.
je l'ai vu, ouais, mais je dirais en pourcentage du temps, je crois que j'ai vu plus souvent Gakpo au centre que Darwin.
Ouais,
Parce que
mais
Darwin, tu le retrouvais souvent à gauche à combiner avec Robertson, et d'ailleurs,
ouais.
tu voyais qu'il était un peu pâteau avec le ballon, Darwin,
Ouais,
honnêtement.
exactement. Non, mais
Ouais.
ouais, si, moi je suis totalement d'accord.
Après, est-ce que ça là, tu vois, genre, ça en fait pour autant un bon asset d'un coup, parce qu'il a ce méga haul dans un
Ouais, moi je
scénario un
pense
peu
que je vais le vendre,
particulier?
on va en parler dans les transferts, mais je crois que
Ouais.
je le vends cette semaine, moi, c'est là.
Ouais, moi je pense
Ouais, en
aussi.
fait, moi mon sentiment en regardant le match, c'est bon, bah déjà il y a deux mi-temps et deux matchs dans le match, quoi. La première mi-temps, c'est un bon match de foot, ça peut marquer des deux côtés quand même, parce que Man United, ils encaissent bien la pression de Liverpool et ils ont quand même des occasions. Il y a Bruno qui met une tête qui passe pas loin. Il y a une autre case, je sais plus qui c'est qui la rate. Et en fait, moi, je regardais Darwin et je te jure, Benjamin, je repensais à ce que tu disais à chaque fois qu'en fait, c'est pas un bon joueur de foot et que les XG, c'est de la donnée. Mais en fait, quand tu regardes le joueur, c'est vrai que tu vois que c'est pas un joueur qui est très doué techniquement. Et en fait, il faisait des prises de balles et je me disais, mais c'est pas possible, il va jamais
Ouais, c'était
marquer un but.
moche.
Oh, t'as des prises de balles, mais du football du dimanche, quoi.
Ouais, non, c'est
Même des
très
prises
laid,
de décision, quoi, où il y a des fois, il peut la contrôler, poser le ballon, il envoie une cloche là sur Salah de l'autre côté, et l'autre qui a là qui doit défendre, surveiller Varane qui défend sur lui ou Martinez. Et non, en fait, si on doit comparer par rapport à l'année dernière, le Salah de l'année dernière et le Liverpool de l'année dernière, il n'y a rien à voir, quoi. Là, c'est
ouais.
une anomalie.
Ben, le truc, c'est que Darwin bouffe énormément de la pile de Salah. Parce que, déjà, quand tu regardes les heatmaps, très clairement, Darwin vient mordre sur la partie centrale qu'avait Salah l'année dernière. Donc, ça a une énorme influence. Et du coup, ça a une double influence, parce que Salah vient vachement plus sur le côté droit pour étirer. Et tu te rends compte aussi que Trent monte beaucoup moins aussi. Tout se passe du côté gauche, hein. C'est Robertson qui a le couloir. Et du coup, ça rend ça là beaucoup moins intéressant en termes de FPL. Et ouais, Darwin, voilà quoi.
Non, je pense qu'un mec comme Gakpo va devenir. Enfin, en tout cas, footballistiquement, les deux buts qu'il met, Gakpo, c'est en tout cas l'appel qu'il fait
Ouais, bien
pour la
sûr.
passe de Robertson. Prise de balle, frappe enroulée, voilà, c'est propre. Le but qu'il met après sur la passe de Salah,
Ouais,
l'appel,
magnifique
pareil, il est
quoi.
nickel. Et Robertson, je suis aussi d'accord. Et en fait, je l'avais en Game Week 16 après la Coupe du Monde. Et j'avais vu le match contre. C'était le match amical ou match de coupe, je ne sais plus, contre City avant la reprise. Et en fait, en attaque, il jouait limite à 3 derrière avec Trent un peu en quarterback, quoi, envoyait des longs ballons sur Darwin et t'avais le dragster Robertson à gauche qui faisait les allers-retours. Et c'est pour ça que je l'ai pris en fait.
Ouais,
Je
non,
me
mais
disais qu'il jouait plus haut.
il est largement plus influent que Trent cette année, quoi, largement. Ouais, c'est le bon choix. Et d'ailleurs, il prend beaucoup plus de coups de pied arrêtés aussi. Parce que là, moi qui avais Trent, je regardais le match de manière intéressée. Coup franc à gauche, c'est Robertson qui le prend. Coup franc à droite, c'est aussi Robertson qui le prend. Donc c'était quand même assez étrange. Est-ce que c'est pas aussi lié à la manière qu'a United de défendre? Peut-être qu'ils défendent moins bien sur les coups francs sortants. C'est possible aussi, mais c'était, enfin, ça crevait l'écran, quoi, que Robertson était plus intéressant que Trent sur ce match-là. Après, je pense que Liverpool, faut pas s'enflammer non plus, quoi.
Non, et je pense que Salah, en fait, il souffre du manque de mouvement que Firmino et Mané apportaient, en fait. Que
Ouais.
ça dédoublait dans tous les sens. Du coup, en fait, quand les défenseurs défendaient en 1 contre 1 contre Salah, ils devaient gérer Trent qui partait à droite dans le couloir qui dédoublait. T'avais Firmino qui venait en appui. T'avais Mané de l'autre côté qui faisait un appel. En fait,
Et
Salah, il avait
tu
3 ou
avais
4 options.
Jota qui venait emmerder et créer le surnombre un peu dans la boîte là, et comme dans un petit périmètre il est très bon, il quand même il attirait pas mal les défenseurs, donc ouais, non, mais c'est clair, c'est pas le même Salah qu'il y a 2 ans.
Ouais, après, moi, je suis d'accord que ça veut pas dire que ce résultat ne veut pas dire que Liverpool va se remettre à gagner tous ses matchs et tout, et je pense qu'ils vont galérer contre les petites équipes. Par contre, je dirais pas anomalie dans le sens où enfin, c'est quand même une équipe qui est capable du tout ou rien et qui peut quand même
Le
battre
score
des
est une
gros.
anomalie. Mais oui.
Ah oui, le score est
Le
une
score est
anomalie.
une anomalie. Non, mais après
Mais ils sont
que...
capables encore de battre n'importe qui. Ils peuvent
Ah,
battre
mais...
Arsenal, City, ou ils peuvent se faire battre la semaine prochaine 1-0 contre Bournemouth, quoi.
Anfield, ça reste Anfield. Tu sais que quand ça commence à bouillonner et tout ça, c'est n'importe qui peut prendre des pilules là-bas. Hein. Donc,
Et sinon,
y a match à chaque fois, quoi.
ça veut pas dire grand-chose sur United non plus, hein, je pense.
Non, non plus. Ben, il n'y a qu'un truc, c'est que... Il n'y a qu'un truc avec United, c'est où je pense qu'ils vont quand même se remettre sur pied et tout. Après, l'attitude générale n'était pas ouf. Bruno Fernandes, c'était vraiment son plus mauvais visage, le râleur qui met des coups, qui demande des cartons, des pénaux. Enfin, c'était quand même assez sale. Et puis, bon, tu vois, Varane n'a pas joué un rôle non plus trop de leader. Bon, quand t'en prends 7, c'est délicat aussi, mais tu vois, tu pouvais espérer d'un Casemiro de faire, enfin, tu vois, de sonner une révolte ou quelque chose comme ça. Mais
Anthony,
bon,
j'ai bien
j'espère.
aimé, moi.
Moi, j'aime pas trop Anthony.
Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est un peu le joueur street, quoi. Tu l'imagines faire un five.
Ouais, mais là, le 5, il l'a pris, si tu veux, quoi. Donc.
Ouais, il a même pris un seven, mais le... Ouais, je sais pas. J'aime bien quand il en rajoute, qu'il fait
Il
des
fait
gestes
son petit
super cool sur
contrôle.
les contrôles et tout.
Ouais,
J'adore.
ouais. Après, c'est
Bizarre,
hyper
mais je trouve pas du
stéréotypé,
tout.
son
Je trouve
jeu.
pas du tout compatible avec Ten Hag en fait, alors qu'il l'avait à l'Ajax et mais dans sa vision du foot et où c'est vraiment quand même une notion collective assez forte et je trouve qu'Anthony, bah peut-être qu'il l'a pour ça d'ailleurs, mais non pour United, je pense que c'est juste
Ben
un
après.
match qui s'est mal passé.
À United, sur un match comme ça, il manque aussi une grande gueule, un gros, tu vois, il y aurait eu Zlatan à 9 à la place de Weghorst, tu vois, il y aurait eu un mec comme ça aurait quand même fait peser une menace tout le temps sur la défense centrale de Liverpool. Là, c'est pas le cas. Donc là, tu vois un petit peu la limite de United, même s'il y a des super choses qui ont été mises en place, tu sens qu'il manque un énorme 9, quoi. D'autant
Ouais,
que
il manque un neuf, ouais.
je sais pas si vous avez vu Weghorst, là, l'image qu'a circulé, tu sais, dans le couloir d'Anfield, il y a tous les joueurs en sortant du tunnel tapotent une plaque qui est au-dessus de la porte du Season Field, je sais plus ce qui est marqué dessus et tout, donc ils passent tous en tapotant ça, et Vegas passe derrière et il tapote aussi la truc en field du Season Field, je sais pas trop quoi. Et du coup, il y a eu plein d'images comme quoi, mais tiens, que fout Weghorst à taper en field là-bas, quoi. Donc c'était rigolo, quoi. Mais bon, tu sens c'est un peu symptomatique du fait que tu sens qu'il est un peu ailleurs dans cette équipe, quoi. C'est un
Ah, le
peu.
mec, il était à Burnley il y a un an, il est passé par la Turquie, il n'est pas programmé pour jouer ce type de match encore.
Non, après, il peut apporter,
Ouais.
mais bon, enfin, tu vois, il ressemble quand même beaucoup à Chris Wood dans un maillot rouge, quoi.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On fait un petit classement, un petit point classement de la mini-league. Donc, mini-league, si on avait... On n'avait pas une saison d'extraterrestre de Seb, je crois que j'aurais pu jouer la gagne. Je suis deuxième. Je représente les OGs dans la mini-league. Mais là, franchement, ça va être très très dur d'aller te chercher. Seb, là, tu as 90 points d'avance sur moi. C'est un peu compliqué. Troisième, Raphaël, qui s'est bien replacé. Raphaël, enfin, lui, pareil, je sais pas où est-ce qu'il va finir cette année, mais son historique, la constance de ses classements, elle est assez énorme. Il est toujours là. Raby, qui est quatrième. Anthony Moves Like a Girl, cinquième. Antoine, les Citizens, sixième. On a Los Santos de Lucas, septième. The French Touch de Matthew, huitième. On a assez marrant parce qu'on a dans le classement, il y a pas mal d'anglophones qui apprennent le français ou qui. Et qui joue la mini-league, c'est assez assez fun. Je crois que c'est le cas de Matthew. On a Botman and Robin 9e, et Benjamin, t'arrives à de manière peu élégante parce que tu mets Jane hors du top 10. C'est pas très gentleman, mais t'arrives à te reglisser dans le top 10.
Ouais, c'est ce qu'elle aurait voulu, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et du coup,
Je
ouais, t'es
regarde où
100 000,
sont.
100 000e, Benjamin.
Ouais, je suis aux portes de. Je suis 102. Ouais. Et j'étais parti de loin là. Je crois qu'au restart. Le restart, c'est la 19, je crois. Non, c'est.
17.
17? Ouais, j'étais loin la restart. Hop, attends, je te
C'était
dire.
bien 350 ou un truc comme ça, hein, je crois, à la restart.
186, ouais.
Ah non, ça va.
Ouais, donc j'ai gagné lentement, tu vois, genre j'ai aucune game week où je fais vraiment des scores de folie, quoi. Mais bon.
Non, mais c'est ce que disait Seb aussi. Hein. Il n'y a pas eu de gros swing sur les captains depuis longtemps.
Après, moi, là, tu vois, on parlait de la réussite. Tu vois, Seb rentre Sarabia, but. Moi, mes deux derniers transferts, c'est j'ai rentré Coutinho parce que Coutinho il avait
Coutinho,
deux.
tu l'as cherché, honnêtement.
Non, mais
Tu as cherché la merde.
Coutinho c'était parfait. Il était Aston Villa, ça repartait. Il était dans le 11. J'ai lu plein d'articles. Emery fait confiance à Coutinho. Il avait une 28, nickel quoi. Bon, le mec il se déchire la cuisse. La veille du match, il est out un mois, donc il me couvre même pas la 28, donc c'est génial. Et cette semaine, j'ai pondéré un peu toutes les options parce que je vais pas free en 28, et donc j'avais shortlisté 3-4 mecs. Donc il y avait Jensen de Brentford parce qu'il a un double puis une 28. Donc Jensen qui marque hier et qui fait full bonus, donc je l'ai pas pris. J'avais shortlisté aussi qui avait je qui avait aussi une. Bah, Mitoma. Mais je me suis dit, Mitoma, je vais le rentrer plutôt en 27 parce que j'ai envie de voir jouer Brighton avant pour savoir si McAllister, Mitoma ou March, lequel est le mieux. Et au final, j'ai rentré James Ward-Prowse qui a un double et une 28 et qui fait 0 points. C'est un flure parce qu'il a un péno qui rate et qui tire super mal. Donc mes deux derniers
Ah
transferts, c'est
là, il a
magnifique.
pas pu
C'est le
faire.
double
Il a
0,
pas pu
quoi.
faire le geste de golf là.
Ah, ouais,
Il aura
non.
plutôt le geste de rugby, quoi.
Donc là, tu vois,
C'est son
tu.
deuxième penalty, je crois, qu'il rate de la saison. Il a
Ouais, il me semble. Ouais. Celui-là était
un plus
vraiment
haut
très mal
pourcentage au
tiré.
coup franc, quoi.
Oui, carrément. Mais celui-là a été hyper mal tiré, tellement bien. Je me suis posé la question, si ça se trouve, il a une prime si, de départ, si Southampton descend, tu sais, il a la porte d'entrée ouverte, enfin la porte de sortie ouverte. Ce qui est possible, hein. Peut-être qu'il a un deal avec Southampton en disant si on descend, te fais pas chier. Mais bon, ce serait bizarre, mais on ne sait jamais. Donc, du coup, deux transferts, deux zéro pointer. C'est beau, hein.
Ouais, c'est pas mal. Mais alors du coup, tu as commencé à en parler. Donc la 28, t'envisages pas de frites. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec mon postulat de départ qui est, à part pour ceux qui prennent des hits, justement, si tu prends un frites en 28, effectivement, tu joues ta 27 et puis tu t'en fous, tu as ton frites en 28. Mais pour ceux qui n'utilisent pas de chips, on prend la 27-28 comme un bloc, quoi, dans les choix de transfert ou non qu'on fait en 27. C'est en regardant si le joueur blank ou pas en 28, etc. Vous êtes d'accord avec ça ou pas trop?
Ça dépend un peu ce que tu comptes jouer. Moi, a priori 27-28, ce sera sans chip.
Ouais, pareil, Seb.
Là, la dernière tendance, c'est sans chip, mais il y a deux jours, c'était wildcard en 28, quoi. Là, c'est wildcard en 30. Mais ce sera pas des frites, ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, il y a deux stratégies. C'est soit je wildcard en 28, ça me permet d'attaquer la 27 avec 6 double, et après de bench boost en 29. Ou alors je me dis que la 29 elle est pas si terrible que ça parce qu'il n'y a pas de fixture très intéressante et je me place pour le long terme en faisant une wildcard en 30. Ça on en parlera peut-être après pendant les chips.
Ouais. Bon là t'as déjà dit pas mal de choses mais ouais.
Mais du coup, ouais je suis d'accord d'approcher ça comme un bloc. Sauf si t'as peu de joueurs de Brighton et de Brentford, dans lequel cas tu peux quand même attaquer la 27 avec deux joueurs de Brighton par exemple ou de Brentford et les mettre sur le banc après, quoi, parce que t'as quand même 4 places sur le banc au final pour la blank 28, quoi.
Alors moi je crois que je vais jouer je vais dire tout de suite, c'est possible que je joue sans joueur de Brighton, quoi, à 27, ce qui est très très chaud. Ce qui est très chaud, ben là moi tiens, on va commencer avec ma team, après on passe au vote. Moi, à l'heure actuelle, j'ai deux free transferts. La priorité, c'est de virer Mitrovic, qui fait plus rien là depuis quelques game week, de mettre Toney à la place. Mais après, je vois pas tellement. J'hésite, par exemple, sur mon deuxième free transfert, je vois pas tellement l'intérêt de virer un Gakpo ou un Salah pour un Brighton. Je me dis que c'est mieux de garder le transfert pour la 27, histoire d'avoir moins de pour la 28, pardon, histoire d'avoir moins de joueurs qui blank.
Mais dans cette stratégie-là, dans le bloc de réflexion, tu es obligé d'intégrer la 29. Est-ce que tu free hit la 29?
Non.
Parce que si tu frites pas la 29, t'as quand même intérêt à rentrer dans Brighton en 27 parce que t'as tes joueurs de Brighton qui double en 29 aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc en fait, ce serait plutôt un bloc 27, 28, 29 qu'il faudrait.
Ouais, je pense que le bloc, il faut le voir comme ça, quoi. C'est ouais. Obligatoire.
Moi, dans ce cas-là, ça te fait rentrer l'option wildcard 27, quoi.
Ouais, mais le problème de la wildcard 27, c'est que. C'est qu'après, tu te retrouves. Bon, t'es load up en Brighton, ce qui n'est pas un gros problème parce que l'équipe tourne bien. Et derrière, il y a encore des doubles à venir. Après la 27 et la 29, donc c'est plutôt bien. Mais après, derrière, si tu joues la 27 un peu à fond avec les doubles, il y a qui double? Il y a Crystal Palace qui double et il y a Southampton. Donc, tu peux wildcard en 27, mais par contre, il ne faut vraiment pas être omnubilé par les doubles, quoi. C'est une stratégie, hein.
Mais les doubles, on est d'accord que sur la 27, il n'y a que Brentford et Brighton qui sont intéressants. Dans les autres, on n'en tient pas compte.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais, pas là, ça sert à rien. Southampton, si tu veux des pénaux ratés, tu prends Ward-Prowse. Mais oui, sinon c'est pas ouf quoi. Mais après, aujourd'hui, tu regardes pas le calendrier. Alors, posons la question comme ça. Aujourd'hui, tu regardes pas le calendrier, les doubles ni rien. Tu ficelles une wild card. Quelles sont les forces en présence que tu dois absolument avoir à ton avis? Non pas des joueurs, mais des équipes. Il faut que tu sois loadé en quoi?
Brighton qui vient en premier, je pense.
Il y a Brighton, il y a Arsenal.
Ouais, Arsenal, City.
City, ça va pas mal tourner. Liverpool, il faudrait en voir un peu plus. Et United qui a un très bon calendrier, quoi.
Ouais,
Ouais, United, moi, dans une wild card, j'ai encore Rashford et chaud, hein.
ouais. Je pense, ouais.
ouais. Après, il y a quand même Chelsea défensivement, qui prennent pas de but.
Ouais, et Kanté va revenir.
Ouais, t'as un gardien à 4,5 pour une équipe premium quand même, c'est rare. Et quand même Newcastle, bon Newcastle ils ont les Wolves, Forest, ils ont quand même des matchs assez faciles. Un mec comme Trippier, bon il doit être dans toutes les équipes, mais ça, ou même un double up derrière, c'est pas déconnant. Après devant dans Newcastle, je suis curieux de voir un peu si apparemment Joe Hilton là est suspendu 2 matchs parce qu'il a pris des cartons. Et il y a des rumeurs comme quoi il ferait jouer Isaac et Wilson ensemble. Parce qu'Isaac est pas très cher, je crois qu'il est à 6,7.
Est-ce qu'il a la caisse
Donc
après, Isaac, qui est souvent blessé
ouais.
Est-ce qu'il y a un argument de wildcard à 29? C'est-à-dire que tu en 29, tu as bon, t'as Arsenal qui joue Leeds et qui est que en single game week. Après, qui double, t'as Villa et Bournemouth, c'est pas forcément fun, mais t'as Brentford et Brighton, t'as Chelsea qui double, t'as Leicester, t'as Liverpool, t'as United qui double, t'as Newcastle. Tout ça, c'est des assets que t'as potentiellement envie d'amener un peu plus loin.
Ouais, mais en fait, la meilleure strat pour la 29, en fait, c'est la free hit, parce que toutes
Moi,
les
ouais.
équipes qui ont des bonnes doubles, c'est des équipes que tu veux pas à long terme, quoi.
Ben moi
C'est.
c'est ce que j'ai listé depuis le début, Fried sur la 29, d'autant que je pense que il y a moyen de faire une frite bien différentielle qui peut être un peu c'est un va-tout, tu vois, genre, mais t'as Bournemouth qui a un double à domicile, si t'as un mec comme Solanke ou Tavernier qui reviennent un peu, ou même Billing ou des mecs comme ça, tu vois, ça. C'est pas fun, enfin tu vois, c'est pas ouf sur le papier, mais historiquement, les frites, quand tu fais le bilan, c'est tout le temps des mecs un peu de derrière les fagots qu'on fait des différences. Tu peux aller sur du Chelsea aussi, bon, personne ne les voit trop venir, mais ils ont Villa et Liverpool, tu vois. Tu peux avoir un João Félix qui peut être intéressant.
Ouais, moi je mettrais aussi
Je
une
vois.
pièce sur Forest quoi. Forest, ils ont Wolves à la maison et Leeds à
Ouais,
l'extérieur. T'as
il y
Johnson.
a
Johnson, il
Johnson,
est en
ouais.
feu. Et même West Ham, hein.
Ou même Gibbs White.
West Ham.
Alors,
Ouais, Gibbs White, j'aime bien. West
ouais.
Ham, c'est un peu compliqué, mais ils ont Southampton à la maison et Newcastle.
Ouais, mais West Ham, c'est tout pété. Alors, il y a un truc fun,
Ouais.
c'est Ben Rama, parce que chaque fois qu'il est sur le terrain, il y a le feu, quoi. Tu comprends pas pourquoi il joue pas. Mais à part ça, sinon, la seule option, c'est Bowen, mais s'ils sont quand
Après,
même
c'est
bien dedans,
compliqué.
hein.
Après, je sais pas sur le. Je trouve qu'elle a pas une gueule à Frit, la 29. Pour moi, les meilleurs. Enfin, ça n'arrive pas toutes les saisons, hein, mais les meilleurs game week à Frit, c'est des game week où t'as beaucoup de doubles. Bon, là, t'as beaucoup de doubles, en effet. Et où t'as l'équipe. L'équipe qui dit vraiment l'équipe pour laquelle tout le monde a trois assets qui blanque, par exemple. C'est déjà arrivé. Ou alors qu'il n'y a qu'un seul match compliqué.
Ouais, mais cette année, ça n'existe
Et
pas,
là,
quoi.
c'est pas le cas. Hein. Ouais, cette année, on n'a pas ça. Mais à l'époque où même il y a une ou deux saisons, quand on avait tous trois joueurs de. On avait tous Trent, Robertson et Salah à un moment, par exemple. Et ben une journée où tu avais Liverpool qui blanque. Et pas mal de doubles, de petites équipes ou d'équipes moyennes. Bah là, c'était pas mal à frites. Mais là, enfin, il te manque, quand je regarde les matchs, il te manque Il te manque il te manque pas de gros assets sur cette game week, quoi.
Parce que
ouais, tu les as déjà, les joueurs, quoi.
Bah, tu les as, mais c'est quand même très abaissé, quoi. Tu vois, tu vas avoir Salah, si tu le vends pas, mais il va à City, il va à Chelsea. Tu vas avoir Rashford, bon, de toute façon, tu l'aurais, je pense, dans une frite. Pff, ouais, si, tu peux quand même aller chercher du différentiel, quoi.
Ouais, moi, j'ai essayé de faire des équipes frites sur cette 29, en fait, et vraiment, j'arrive pas à sortir une équipe qui tient la route, quoi. C'est un peu... Elle est vraiment mal foutue, en fait. Il y a que des
Ouais,
matchs bizarres,
ouais,
quoi. Il n'y a
ouais.
pas... Tu vois, t'as Liverpool, ils ont un double, c'est City et Chelsea à l'extérieur. Enfin, même United, hein, ils ont Newcastle à l'extérieur, Brentford à domicile, sachant que Brentford, ils excellent contre les grosses équipes. Et toutes les équipes que tu veux long terme, elles ont soit un double horrible comme Liverpool, soit elles sont en single game week. Ce qui peut aussi, tu vois, un mec comme Haaland contre Liverpool,
Bien
il peut
sûr.
bien sortir avec un doublé. Arsenal contre Leeds à la maison, ils peuvent leur en mettre 4 ou 5. En fait, c'est pas impossible que tu aies des joueurs de single game week qui
Oh
dépassent
bah
les
oui,
joueurs de
comme
Brentford,
toujours,
quoi.
bien sûr, bien sûr.
Tu
Mais
vois,
si tu
Iheanacho
frites
qui va faire.
pas la 29, tu frites quoi, laquelle?
32 en
La
fait. Si je
32?
fais
Ouais.
wildcard en 30, après je vais être chargé sur les équipes qui sont comme Brighton, City, Chelsea, United qui vont sûrement blank en 32.
Ouais, y a cet argument-là, ouais.
Mais tu
Ouais,
veux
donc en...
et à ce moment-là, t'aimerais pas plutôt la dernière grosse double de la saison qui devrait être en 37?
Bah, c'est que je vais pas pouvoir en fait. Enfin, ça va être. Le truc, c'est que Brighton, ils ont encore deux ou trois doubles à
À
replanifier.
caser, ouais.
Ouais, et ils ont sûr un blank en 32 contre City, parce que City joue Burnley en FA Cup et Brighton joue Grimsbury, là, combattu Tottenham. Donc c'est sûr que s'il y en a un des deux qui passe, il y a le match blank. Donc c'est sûr que ça va. Et Brighton et City, ils n'auront pas de match en 32, quoi.
Ok.
Donc en fait, ouais, franchement, là, c'est le moment le plus difficile que j'ai eu à planifier. Je m'en sors pas trop, quoi.
Juste une question sur Tony. Donc vous l'avez déjà dans, je sais jamais si on dit Tony ou Tony, mais vous l'avez déjà dans vos équipes. Est-ce que le fait qu'il y a eu que ça avance là l'enquête, qu'il ait reconnu les charges, qu'il ait aussi un carton jaune de la suspension et tout, ça vous inquiète? Est-ce que là, si vous l'aviez pas, comme si vous étiez dans mon cas par exemple, ça vous empêcherait de le rentrer ou pas du tout?
Moi, je suis pas
Non, je le
inquiet par
rentrerai
la procédure. Je suis plus inquiet pour les jaunes que la procédure.
pas. Ouais. Mais là, il a deux jaunes, il a huit jaunes, donc
Ouais.
il a deux jaunes de prendre ses deux matchs. Donc là,
Ouais,
t'es
ça
déjà
va.
sûr que son double, en fait, t'es tranquille. Et
Peut-être te faire avoir sur la 28, c'est tout.
ouais. Mais enfin, en fait, Brentford, c'est la seule équipe qui a. Ils ont cinq matchs dans les trois prochaines game week, quoi.
Ouais, mais Tony, c'est le seul mec qui va pas être rotate, quoi, tu vois. Parce que quand on
Ouais.
parlait de tout à l'heure à Jensen, Thomas Frank a déjà dit qu'il allait rotate sur la 27, mais Tony, il va jamais le rotate. Le problème, c'est
J'ai
que.
déjà dit que Jensen allait rotate.
Non, il a dit qu'il allait rotate sur la 27. Mais bon, c'est pas forcément Jensen, tu vois, mais bon.
Ah oui, ok.
Tu vois, ça va tourner, quoi. Ça peut
Ouais,
être.
puis c'est le talisman, quoi. Le
Oui, bah, bien
talisman,
sûr, bien
c'est...
sûr, bien sûr. Non, le problème, c'est que tu dois prendre aujourd'hui la décision de ton bloc 27, 28, 29. Si tu rentres Tony, c'est probablement pour ne pas frite en 29. Et du coup, bah, il faut capitaliser sur le fait qu'ils prennent pas deux cartons en 5 matchs, quoi. En 4 matchs, pour être plus précis, mais bon. C'est chaud, hein, c'est quand même une machine. Ils
Ouais,
cartonnent
bah,
comme il faut,
oui.
quoi.
Ok. Bon, bah, on peut
Après, au
dire.
niveau procédure, moi, je suis pas du tout inquiet. Bah, je
Ouais,
sais
non, ça
pas, il
sera
y
en
a vu.
avril, je crois. C'est
On
en
n'a pas
avril que
avant
ça va se
avril,
décider.
ouais.
Joey Barton, apparemment, sur le même cas de figure, il avait pris 15 matchs. C'est ce qui fait qu'il est allé jouer à l'OM. parce
Ouais, mais
qu'il pouvait plus jouer en première ligue.
Joey Barton, ils lui ont mis 15 matchs et après ils l'ont jugé, non? Les 15 matchs, c'était sur son... sur toute son œuvre avant, non?
Ah, je sais pas, non, non, mais c'était le même cas de figure apparemment.
Ouais, je sais plus qui a pris aussi beaucoup, quoi.
Mais
Ah, c'est Trippier qui a pris, hein, je crois, il me semble avoir lu.
Et puis aussi, il avait gamblé.
Ouais, je crois. Ouais.
Sur son
Ok.
transfert à l'Atlético, je crois.
Ah oui, sur son transfert à Atlético, ouais, je crois. C'est génial, quoi. Le mec dans l'avion, allez, vas-y, place un bet, je pense que je vais aller à l'Atlético. Il avait fait une pari à des cousins, je sais pas trop quoi, en fait, tu vois,
Les teubés.
les Lopez, quoi.
Ouais, et puis les mecs, ils ont fait ça sur le groupe WhatsApp, là, avec.
Ouais.
À la Karabatic, non? C'est
Un
Karabatic qui
peu,
avait fait ça
ouais.
aussi.
Ouais.
Donc du coup, bah, pour avancer, vos mouvements pour le prévu, pour le bloc 27, 28, 29. Bah, on commence par toi, Seb.
Alors là, la dernière stratégie, c'est wildcard en 30. Donc du coup, moi, l'objectif, c'est qu'il faut que je sorte, mais j'ai 6 joueurs là qui blank en 28,
Ouais.
pas de bêtises. Donc en fait, là, j'ai 3 transferts pour en sortir 3. Donc je vais sortir les 3 de Liverpool. Sur les deux prochaines Game Week ou de Liverpool et Haaland. C'est ça les strats.
Attends, mais t'es, par contre, ce que je comprends pas, c'est que Liverpool, il est double en 29.
Ouais,
Ouais.
mais ils ont City et Chelsea à l'extérieur. Bon.
En fait, moi
Ouais, mais...
j'ai Haaland, les trois de Liverpool et deux de Brighton. Je vais garder les deux de Brighton. Donc Estupinian et Mitoma, ce qui double aussi avec un bon double en 29, un meilleur double que Liverpool. Donc là, je suis sur. Là, en Game Week 27, je vais faire Robertson pour Trippier, je pense. Ou pour Pinnock de Brentford, mais plus sur Trippier pour le moment. Et en 28. Je sais pas encore défini, mais ce sera Darwin, je pense. Qui va sortir et donc soit je fais Darwin et Haaland pour Kane et Watkins ou Kane et Joao Félix ou alors je fais Salah et Darwin pour Kane et Buendia peut-être ou là c'est là que ça devient un peu compliqué c'est que les milieux qui blanquent pas en 28 et qui ont une double en 29 à part Aston Villa il n'y a pas grand monde quoi. Donc voilà, et 29, pas de bench boost. Je vais essayer d'avoir une équipe avec 9 joueurs qui ont des doubles. Donc il n'y aurait que Saka et Haaland qui auraient des single game week.
Alors je regardais le classement France parce que comme tu es numéro un français depuis peut-être 2 ou 3 mois là maintenant. On espère que le numéro 2 France n'écoute pas le podcast. Il s'appelle Alexis. Sinon, il a toute ta stratégie. Bon, tu as un petit peu d'avance. Hein. Franchement, même sur le deuxième France, tu as quasi 50 points d'avance.
Et ça vient de cette Game Week 26 en fait, parce qu'avant j'étais au coude à coude, hein. C'était vraiment serré. Il y avait des mecs qui sont venus un peu de nulle part, qui n'étaient pas vraiment là sur les 10 dernières Game Week. Et en fait, il y a juste le dernier week-end qui va faire le trou.
Je suis 19e sur la France. Moi, j'aimerais bien faire un top 10 France. Je n'ai jamais fait non plus.
Ah, c'est possible.
Oui, c'est possible. Le 10e, il est à 1714 points et j'ai 1708. Hein. Je suis complètement dans la course pour le top 10. Ouais, non, bah, écoute, stratégie très claire. Benjamin, de ton côté?
Ouais, juste une question, Seb, tu parlais de la wildcard en 30. Est-ce que tu as déjà un peu anticipé ton draft en 30 de wildcard? Pardon, qu'est-ce que tu fais de tes assets d'Arsenal qui, entre la 30 et la 33, jouent à Liverpool et à City?
C'est entre 0 à 7 et 1. Et c'est soit Saka, soit personne, en fait.
D'accord.
Parce que si je fais un Frit en 32 où il joue Southampton, bah là je peux soit faire un double up ou un triple up. Après il joue City à l'extérieur et Chelsea donc et Newcastle à l'extérieur, donc je vais pas les voir en fait. Ça va dépendre un peu du budget et de la forme des joueurs. Mais pas impossible que je me vois pas en fait avoir plus d'un joueur d'Arsenal, c'est impossible quoi. Je me vois
D'accord.
pas.
D'accord. Ok, moi concernant ma stratégie, je suis. Il y a à peu près qu'un seul truc qui est catégorique dans ma tête, c'est que je ne vais pas free hit la 28. Et après, derrière, il faut que je décide si je free hit la 29 ou pas. Parce qu'il est probablement possible d'aller en 29 avec pas mal de doubleurs, Rashford, Trippier. Un mec de Brighton que je rentrerai, peut-être Tony s'il va jusque-là. Il y a peut-être moyen de naviguer ça, quoi. Donc,
Okay.
à voir. Là, dans l'immédiat pour la 27, ben c'est un peu lié aussi à ça. Est-ce que je vais free hit ou pas la 29? Parce que mon idée, c'était quand même de, je pense, virer ça là pour un mec de Brighton. Est-ce que je le remets après derrière en 29? Possible, mais ou est-ce que ça vaut le coup de sortir dès maintenant mec... Enfin, tu vois, tu peux pas sortir un mec d'Arsenal parce que ils triplent en... Enfin, tu peux en aligner 3 en 28 si tu frites pas. Donc c'est vraiment complexe, quoi. Je pense qu'il y a une stratégie qui peut consister à virer Salah pour un de Brighton. Tu gardes ton mec de Brighton en 28-29. Enfin, en 29, quoi. Et après, enfin, tu vois, tu fais un autre changement. Un James Ward-Prowse en Salah. Tu le remontes en Salah si tu veux Salah. Ou alors, si tu préfères un autre mec qui double sur la 29, type Madison, tu vois, qu'un double Crystal Palace à Aston Villa, tu peux aussi, quoi. Mais.
Et
Ouais.
un Walker pour un Estupinian, ça te...
Walker pour Estupinan, je l'ai considéré aussi. Il y a un truc qui me refroidit un peu, c'est que pour moi, si je rentre un milieu de Brighton, c'est une option de capitana pour la 27. Alors que je me vois pas captain. Je lis énormément de choses, ouais, Captain Tony. Je suis pas sûr que ce soit si tranché que ça. Si t'as un mec comme March ou Mitoma, je pense que ça joue en captain. Alors que j'aurais vachement des difficultés à rentrer Stupinan. Mais par contre, la bonne question, c'est il y a très probablement c'est possible de faire un moins 4. Si tu décides de pas free hit la 29, tu peux te dire bah, je fais un moins 4 Stupinan Walker. J'aurai un, deux, trois, quatre matchs à la place de trois, à la place de deux même. Donc ça vaut le coup, quoi. Je pense que c'est viable de faire le moins de quatre là-dessus.
Ouais, mais
Ok.
au final, même si tu rentres Estupiñán pour Walker, tu peux toujours captain Haaland ou un autre gars. Enfin, ça, c'est quand même une double intéressante. Ouais, je sais pas.
Bah, l'avantage, c'est que le problème de Brighton, c'est cette blanque en 28, quoi. C'est-à-dire que tu rentres un mec que. Si tu fais un moins 4 en 27 pour un Brighton, très clairement, tu te condamnes à ne pas free hit la 29, quoi. Parce que ça a du sens de rentrer un Brighton maintenant, surtout pour un moins 4, que si tu l'amènes en 29 pour jouer la double sans jouer ton free hit, quoi. Sinon, je vois pas trop trop l'intérêt, quoi.
Ouais, ça.
Mais ouais, c'est compliqué. Il faut décider en fait maintenant si free hit. Mais après j'aime bien la stratégie de wildcard 30 et free hit 32. Voire même, je pense même que j'ai pas fait de draft de wildcard, mais je pense qu'il y a même une possibilité de wildcard en 30 et de mettre les blankers sur le banc en 32. Et peut-être pourquoi pas free hit plus tard, quoi.
Ouais, moi, ça serait mon plan, en fait, pour le moment. Mais ce serait sur les chips, ce serait Wildcard 30, Bench Boost 31, qui est une double, je crois. Et Free Hit, la dernière grosse double de la saison,
La
où
37.
ouais, la 37, où mon équipe de Wildcard commencera forcément à tirer un peu la gueule. Il commencera à y avoir des flags ou des mauvais choix et tout. Et donc. Et donc, ce sera, pour l'instant, ce sera ça, mais il faut que je revoie. Et donc, moi, pour les mouvements là, du bloc 27, 28, 29, bon, bah, il y a Mitrovic que je dois sortir pour Kane. J'ai pas l'argent, donc je dois faire un deuxième move. Je dois utiliser mes deux free transfers. Et du coup, c'est soit je vais rentrer Mitoma, qui sera peut-être mon captain, ce qui n'est pas totalement sûr. On va en parler dans les captains, mais et pour le coup, je dois sortir un milieu et j'hésite entre sortir Salah et Odegaard en fait. Parce que Odegaard, je le trouve quand même un peu moins bien là depuis quelques temps.
Ouais, je suis d'accord. Bah, il a fait un bon match là, il a dû tirer 10 fois au but là, à chaque fois contré,
Ah,
mais
il a beaucoup tiré, mais ils étaient pas ultra dangereux ces frappes.
Ouais, mais bon, Odegaard, il a une 38 quoi. Il a une 28, pardon.
Il a une 28, ouais,
Ouais.
donc je pense que c'est Salah que je vais virer. Après, entre Salah et Gakpo, lequel est le plus à même de faire un résultat à Bournemouth? Ouais, je dirais Gakpo. C'est après le Bournemouth, c'est après le match retour contre le Real. Hein.
Non, c'est avant.
C'est avant, d'accord.
Ouais.
C'est avant. Est-ce que ça peut jouer ça? Non, ils se sont pris une rouste. Bon, ils n'ont plus grand-chose à.
Non, puis non, puis là, il faut qu'il surfe sur la dynamique, quoi. Mais après,
Ouais.
je pense que Salah a quand même plus de chances de outscore Gakpo. Je sais pas si vous avez vu la stat, mais je crois que ça fait 35 journées que Liverpool a pas eu de penalty, un truc comme ça. Enfin, c'est à un moment donné, tu vois, ça va tomber, quoi. J'ai l'impression que Brentford, ils ont un
Ouais.
penalty tous les 3 matchs, quoi.
Ah ouais. Puis en plus, c'est des pénalités légers à chaque fois. C'est.
Ouais. C'est très bizarre.
T'es d'accord? Moi, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que Gakpo, il peut outscore Salah sur 27 plus 29. Surtout sur la 29, en fait.
Je suis pas sûr parce que je pense que Gakpo, c'est typiquement le genre de joueur qui peut faire les frais d'un remaniement tactique lors du déplacement à Man City quoi. À Man City, il peut très bien se ramener avec un Firmino Jota, tu vois, un truc,
Ouais, c'est possible,
tu
ça
vois.
c'est possible.
Ouais. Non, et puis ça
Donc,
là, c'est 90 minutes. Gakpo, tu sais que ça va sortir à
ouais.
la 60-70e. Ça là, il a les pénalties aussi.
Gakpo, je pense que
Ouais.
t'as pris la chatte, il faut partir maintenant. Par
Ouais, c'est
contre,
possible.
tu
Donc, ça
t'évoquais
sera
ouais,
Mitoma pour
Mitoma. Alors
Gakpo.
pourquoi Mitoma dans le débat Mitoma McAllister March? T'as regardé les stats? Alors March est largement
Ouais.
au-dessus. Hein.
J'ai regardé les stats, mais j'ai regardé aussi les matchs. Enfin, sur l'eye test, je préfère vraiment Mitoma, quoi.
Et toi, Seb? Bon, toi, t'as déjà Mitoma, mais
Ouais, moi j'ai déjà mis Thomas et en fait bah déjà bah
imagine
j'ai
du
décidé
frit.
de
Tu prends quel asset de Brighton?
et moi je prends mis Thomas et McAllister.
D'accord.
Mis Thomas parce que bah c'est aussi un peu l'eye test et il est kiffant à avoir joué et puis je me dis qu'en fait il est tellement virevoltant qu'il est dans la surface, il va provoquer des pénaux, il va toujours faire quelque chose. Marche, en fait, j'en reviens un petit peu au podcast des experts là sur Az, etc. Ils disaient en fait que Marche, c'est pas un si gros joueur que ça et qu'il est un peu. Il a eu une saison un peu extraordinaire cette année, mais. Tu vois, moi, j'ai vu pas mal de matchs où en fait, Marche quand même vendangeait beaucoup d'occasions, quoi.
Quand tu regardes les stats, c'est quand même c'est solide par contre. Hein.
Ouais. Non, mais c'est vrai, mais il a mis un doublé ou un triplé en début. Il a mis. De doubler la coup sur coup après la Coupe
Alors,
du
oui, non.
Monde. Enfin, il y a quand même des. En fait, il y a des gros gros coups où il met des 20 points. Mais tu vois, Mitoma, c'est plus régulier. Et McAllister, parce qu'en fait, bah, il a les pénaux. Et moi, je suis un petit peu dogmatique là sur les joueurs qui ont les pénaux, même si c'est pas forcément. Mais quand il y a une décision à faire sur deux
Ouais.
joueurs qui sont à niveau égal, des stats un peu égales, positionnement. Plus ou moins
Le
similaire,
problème
je prends le joueur
de
avec les pénaux.
McAllister, c'est qu'il a les pénaux, mais tu sais jamais s'il va jouer un 10 ou un sort de 8-6 là.
Ouais. Et
Donc
ben en
ça
fait, il
c'est.
disait qu'avec De Zerbi, là, qu'il a un positionnement un petit peu hybride, il joue pas 10 en fait. Si tu regardes la heat map, il est soit 8, soit 9.
Ouais.
Donc il finit quand même les occasions, il est souvent dans la surface de réparation. Et ouais.
Et c'est lui
Donc.
qui avait des bo très bonnes stats aussi, outre le. Enfin, avant la 26, parce que bon, il a l'XG qui correspond à son péno. Mais il avait des très très bonnes stats aussi, frappe dans la surface, frappe cadrée, heatmap et tout ça, McAllister.
Ouais. Et sinon, l'alternative à laquelle je réfléchissais, et j'y réfléchis pour après pour la wildcard en 30, c'est de prendre Ferguson. Parce qu'il coûte
Tu crois?
4,5. Et par contre, là, c'est le risque de rotation, il est extrême. Il faut bien lire un petit peu les interviews de Zerbi et voir un peu les matchs précédents, ce qui s'est passé, s'il joue. Mais je trouve qu'il joue de plus en plus, que Welbeck est quand même assez souvent blessé. Sur une double, je ne le ferai pas parce que
Ouais.
tu as trop de risques qu'il joue 60 minutes. Mais sur du long terme, si tu veux avoir trois de Brighton qui sont faciles à bencher quand ils ont des blanks, pour l'après la 30 en wildcard de Ferguson, c'est clairement une option.
Bah, il y a Welbeck, quoi. Il y a Oundav
Ah, il y
aussi.
a Welbeck. Ouais, Oundav aussi, ouais.
Ça fait beaucoup chaud. Mais bon.
Ouais, mais dans la hiérarchie, je pense qu'il est deux quand même. Il est derrière Welbeck, mais il est devant Oundav.
Oui. Oui, mais après, est-ce qu'il te prend pas un spot devant? Il y a ça aussi à voir, quoi. Est-ce que ton 4.5, il vaut mieux pas que ce soit un mid, tu vois, avec Andreas, quoi.
En game week 30, là après, t'as quand même, tu veux caser un Salah, Rashford, peut-être un Saka, un Madison et puis je sais plus qui d'autre. Ouais, il y a quand même, il y a du monde au milieu, hein, je trouve.
Ouais, c'est clair.
On se donne notre captain, et puis après on va finir avec les traditionnelles questions de fin de podcast quand on a un invité, les pronostics. Seb, ton captain pour la 27.
Bah, ça revient un petit peu à ce que Benjamin a expliqué auparavant. J'ai deux options, c'est soit Tony, soit Mitoma. Et en fait, place à penche, je suis au Mitoma pour des raisons un peu. Alors, j'ai fait une liste un peu des pros et des pour et des contre. Tony, il a quoi? Il a les pénaux et il a les meilleurs XG que Mitoma.
Ouais, Tony, il a les BPS aussi, hein. Il a les bonus. Hein.
Il a les BPS, ouais.
Ouais, et ça joue. Ouais,
c'est pas mal ça.
Après, Brentford à l'extérieur, c'est pas terrible. Et il joue deux équipes à l'extérieur. Et Southampton à domicile, c'est quand même bien mieux, défensivement. Même si c'est un miracle qu'ils prennent pas un but contre Leicester, mais ça, c'est une autre histoire. Et je pense que, d'autre côté, en fait, Brighton, c'est l'équipe explosive, vraiment. Autant que tu peux, quoi. Ils sont numéro 2 juste derrière City en XG à l'extérieur et à domicile. Ils sont devant Liverpool et devant United sur les 10 dernières game week. Et je pense que Mitoma, il peut plus exploser que Tony, quoi. Parce que la façon dont ils jouent Brighton, ça part dans tous les sens. Ils peuvent t'étouffer et s'ils peuvent t'en mettre 6, je pense qu'ils en mettent 6, quoi. Bon, Brentford, j'ai l'impression qu'il gère un peu plus quand même. C'est un peu plus la berline qui gère ses matchs. Donc c'est
Ouais.
moi je suis plus sur Mitoma. Mais c'est le risque, quoi, parce que tu vas peut-être faire 15 points avec Tony, il va mettre 2 buts sous les deux doubles. Et avec Mitoma, tu peux faire 30 comme tu peux faire 4, quoi.
Il y a aussi Haaland qui peut en claquer trois à Palace, hein.
Aussi, ouais. Là, enfin moi je suis un peu
Ouais, et
borné sur
t'es
les doubles en fait, mais. Et c'est pas fixé, quoi.
Ok, Benjamin.
Ouais, moi, comme j'ai dit, ça se joue entre Tony et puis le milieu de Brighton que je vais rentrer, probablement à la place de Salah. Je suis vraiment, je penche un peu vers Mitoma parce qu'il a, comme vous dites, il a ce côté un peu virevoltant et puis il est fun, tu vois, genre. Et puis De Zerbi a dit plusieurs fois aussi que dans des matchs très serrés, il pouvait pas se permettre de sortir Mitoma avant la fin du match parce que c'était typiquement le genre de joueur qui était capable de marquer un but de nulle part avec, enfin, tu vois, réussir un exploit personnel. Et ça me réconforte un peu aussi, tu vois, par rapport à d'autres parce que tu sens que même si le match est un peu tendu, s'il y a 1-1, quelque chose comme ça, t'auras Mitoma jusqu'au bout, quoi. Et si le match est plié avant, il aura sûrement été impliqué dans le truc, quoi. Après, Tony, il a les pénaux, il a les bonus, hein, il bonus énormément. Alors que Mitoma, c'est un jeu avec un peu de déchets, quoi, donc il y a un peu moins de bonus. C'est close, mais je pense que ça sera plutôt Mitoma Captain si je rentre Mitoma, je pense. Mais c'est close. Hein.
Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais j'arrive pas à me faire une opinion sur Brentford en fait, sur cette équipe.
C'est l'équipe casse-couille, ça ressemble à Leicester, quoi. C'est, tu sais jamais ce qu'ils vont faire, quoi. Un coup c'est parfait, un coup c'est nul.
Tiens, Leicester, vous avez vu les 11 points de Ward sur nos bancs?
Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que ça a dû te faire mal au classement. Enfin, moi, ça m'a fait mal au classement parce qu'il y a eu l'autosub, il y a eu beaucoup d'autosub avec Sanchez qui a pas joué à Brighton. Parce que
Ouais, c'est
c'est.
juste.
Donc, il y a pas mal de Sanchez Ward qui ont chaté complètement l'autosub, là, pour le coup.
Ouais, moi
Et.
ça a joué sur le classement.
Ouais.
J'ai pas compris pourquoi j'ai perdu pas mal entre
Ouais, mais c'est
après le
ça.
match.
C'est ça,
Je me
c'est.
suis dit, c'est pas que des gens qu'avec Tony. Hein. Non, il a dû avoir du Ward, ouais.
Ouais, il y a de l'autosave, quoi. Mais.
Ouais.
Bon,
Sinon,
sinon, c'est
moi je.
difficile, ouais. C'est
Ouais.
difficile. Brentford,
Bon, moi je suis
c'est pas hyper
sûr.
fun à voir jouer, en tout cas. Je suis pas fan, quoi.
Non, c'est pas. C'est pas top. Je suis sur Mitoma aussi en hein, captain hein, au
Ouais.
moment. Ouais. Ok, bah on arrive à la fin du podcast. On va finir avec les pronostics. Je vais vous demander votre classement final FPL, le champion de Première Ligue et les trois relégués. Alors, Seb, ton classement final à la 38e, à la 38e journée de FPL.
Bah, premier, je suis obligé d'aller au panache, là. Non, je peux pas. C'est
Exactement.
l'objectif, hein. C'est l'objectif, hein, de manière là. C'est pour ça qu'il y a tellement d'enjeux sur ces prochaines Game Week, parce qu'il y a beaucoup à gagner ou à perdre.
Yes,
Donc,
c'est
ouais,
beau ça.
premier.
Premier monde. Benjamin.
98 000.
Ok.
Et toi?
C'est ce que tu penses, hein. C'est ce que tu penses,
Oui,
c'est ton
oui,
prono,
oui.
hein. Ouais.
Ouais.
Moi, je pense que je vais me faire niquer aux portes du top 10K, donc je vais être 10 002 ou un truc comme ça.
Ok, ouais, ça serait beau ça.
Ouais, pas trop, mais bon.
Ça serait très beau. Ça serait bah, c'est le minimum qu'on a pronostiqué Tottenham champion au début de l'année. C'est le
C'est
minimum,
ça.
quoi.
Seb, qui sera champion de Première Ligue?
Arsenal. C'est
Benjamin?
un peu le
Ouais,
cœur,
non,
mais
tu peux
Arsenal.
argumenter un peu, ouais.
Non, c'est un peu le cœur quand même qui parle, parce que je trouve qu'ils méritent cette année. City me font une foule un petit peu. Et là, les remontées qu'ils font là, contre Bournemouth et ça, je trouve que c'est pas mal.
Il y a 5 points d'avance là pour le moment. Ouais. Benjamin, qui sera champion?
Je pense que ça sera Arsenal aussi. Tu sens qu'ils ont un peu la baraka, quoi. C'est de leur côté cette année. Après, ils ont une fin de saison assez difficile. Mais je pense qu'Arsenal va tenir. Non pas qu'ils vont faire le plein de points jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que City va avoir 2-3 accidents, ils vont pas aller les chercher.
Ok.
Et toi?
Je pense que c'est City quand même. J'aimerais
City?
vraiment que ce soit Arsenal, mais je pense que là, dernièrement, c'est poussif. Ils y arrivent à coup d'exploit et tout, mais je sais pas, je sens que ça a craqué à un moment. Donc je pense quand même City, quoi. Seb, tes trois équipes rétrogradées.
Difficile, hein. Vraiment difficile à dire. Je vois quand même Southampton et Bournemouth, je les vois descendre. Et après le troisième entre Everton, Leeds et West Ham. J'ai bien envie de dire Leeds quand même. Je pense qu'ils sont bien mis dans la mouise environ Jesse March là, sans
Ouais.
avoir un plan de backup. Là, je pense que le nouvel entraîneur, il veut les faire jouer un peu défensif. Du coup, ils vont plus marquer comme ils marquaient avant. Ils vont perdre des vieux 1-0 là, comme ils ont fait dernièrement. Et je vois bien Leeds.
OK. Benjamin.
Je suis en train de regarder un peu le calendrier aussi. Je pense que c'est Everton, Southampton et Bournemouth, le classement actuel.
Le classement actuel?
Ouais.
Moi, je vois Bournemouth, Southampton. Et je pense que Forest va s'écrouler. Donc, je mets Forest en dernier.
Tu crois?
En 18, ouais. Ils ont trop insulté le football là, avec leur 45 transferts et tout. Je pense qu'ils vont y avoir droit. Mais après,
Ouais.
c'est mon prono. Hein. En souhait, je préférerais voir descendre West Ham ou Everton. Mais je pense que Forest va prendre cher à la fin de saison.
West Ham, s'ils descendent avec leur équipe, c'est un scandale. Hein, pour eux.
Ouais, c'est sûr.
Il y a...
Mais Everton, je vois mal. En fait, ouais, Everton, je vois mal comment ils pourraient se maintenir. Donc, je regarde le calendrier. En fait, ils ont personne devant pour marquer des buts. Ils ont ni Mbappé et Calvert-Lewin qui est toujours blessé. Et ils jouent quand même Chelsea, Tottenham, United, Newcastle, City entre la 29 et la 38, quoi.
Ah, c'est chaud. Il y a un Everton, non, il y a un Bournemouth Everton en 38.
Ouais.
Ça peut être pas mal.
Après, il y a 15, il y a combien? Il y a. Ah, il y a 12 matchs, ouais. Matchs, ouais. Bon, ouais, il y a quand même 36 points encore à donner,
À Leeds,
mais.
tu sens que ça peut revenir quand même, quoi. Tu vois, tu peux avoir des mecs. Il y a Rutter qui vient d'arriver. Bamford, il peut aller chercher un maintien, tu vois, sur un fin de saison, des trucs comme ça. Tu sens qu'il peut quand même se passer des trucs. Everton, c'est claqué, hein, franchement. Pff, putain.
Ouais, c'est qu'il y a.
Ouais, West Ham, c'est claqué aussi. Ça fait 15 game week, comme je dis, ah, ça va repartir, ça va repartir, ça repart jamais. Il paraît qu'il y a eu des. J'ai pas vu l'image, mais il paraît qu'il y a Moyes qui a donné des infos sur le bord de touche à Declan Rice, et genre, quand la caméra s'est tournée, il y a un gros plan sur lui, il lève les yeux au ciel en balançant sa bouteille en se retournant, tu vois. Tu vois l'ambiance, quoi.
Par contre, en parlant de Declan Rice, j'ai vu une vidéo très très fun sur YouTube. En fait, c'est un gros fan de Yaya Touré.
Ça,
Et
c'est
là,
bien, ça.
t'avais Yaya Touré qui est passé au centre d'entraînement de West Ham, lui faire une surprise et tout. Il était comme un gamin, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est un bon point pour lui. J'aimais pas Declan Rice, mais qu'il soit fan de Yaya Touré, c'est un bon point.
On est tous fans de Yaya Touré, non?
Ouais,
on est obligé.
c'est clair. Bon,
Qu'ils soient
bah
d'un point de vue
écoute.
Première ligue ou fantasy football, quoi.
Ouais. Non, mais souvent on voit passer des équipes, etc., machin. Quand tu fais une équipe au niveau mondial, hein, sur les 30 dernières années de foot, on va dire, et que tu prends tous les joueurs à leur pic, c'est-à-dire à leur pic sur 6 mois, pour moi, dans le 11, il y a Touré. Très clairement, quoi. Parce que le pic Yaya Touré était vraiment imprenable, quoi. C'était de la folie, quoi. Il savait tout faire. Il faudrait que vous regardiez la saison où il met 20, 22 buts, je sais pas combien.
Ah,
C'est
c'est
de la
gros,
folie.
grosse saison.
Il fait du box-to-box en rafutant tout le monde. Enfin, n'importe quoi. Un monstre. Un monstre.
En tout cas, Seb, merci pour cet épisode. Vraiment sympa.
Ouais, bah,
Euh,
avec
on
plaisir,
a,
c'était cool, hein. Je
on
suis
a
maintenant
discuté de plein de trucs.
à 43 points du numéro 1. J'ai quand même regardé, ça s'est rapproché quand même.
Ah,
Ah,
c'est beau.
43 points, c'est que dalle. Mais
Ouais.
du coup, je pense qu'il faut qu'on fasse le multiplex ensemble en fin de saison là.
T'as le
Tu
38,
joueras à 38.
toi.
Soit tu joues le titre de champion du monde, soit tu joues un top 100, ou en tout cas, il y aura un gros truc à jouer, quoi. On essaiera d'organiser ça, ouais. Ouais, non, faut qu'on fasse le multiplex. Et d'ici là, bah, bonne réflexion à tous les auditeurs. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
Salut, bonne Game Week.
Ciao.